Om Valdensa Venamar in Poce Dagice Orpe Meden Ciulla Cantin Cempe Gune Gesunte Cusuntum Cinedum Celtus el songe cedong zogi chonam la Jointum paudu dani kiam suci Dagi jin zogi pesenam gi Jolla pence songe Rumbai shu sangye chedong zogi chonam la Jangchum badu dani kyam suchi Dagi jin zogi pe senam gi Jolla penche sangye Rumbai shu sangye chedong zogi chonam la Jangchum badu dani kyam suchi Dagi jin zogi pe senam gi Jolla penche sangye rumbai shu
Chacun place le corps en méditation avec une colonne vertébrale droite. En méditation, on ne cherche pas à créer un état spécial à l'esprit. On est dans une grande détente, claire, lucide. Cela veut dire que on accepte dès le départ que tout peut se présenter à l'esprit, tout peut s'élever dans l'esprit, tout peut apparaître. Toute forme de pensée, toute forme de facteurs mentaux, toute forme de phénomène. Il n'y a rien à trier, il n'y a rien à craindre. Nous sommes cette conscience qui reconnaît leur présence, qui ne s'attache pas, mais qui ne refuse pas non plus, qui ne rejette pas. Et qui fait l'expérience que malgré la présence de ces phénomènes, si elle ne les saisit pas, ne les solidifie pas, alors ces phénomènes n'ont pas la possibilité de la perturber, de faire naître dukkha, la frustration, l'insatisfaction, la tristesse, etc. Si par rapport à certains phénomènes, on constate que notre esprit a du mal à les lâcher, alors nous reconnaissons la nature de ces phénomènes. Ils sont impermanents, ils sont dépourvus d'existence propre. Donc il n'y a rien à quoi s'accrocher. Ce n'est que du mouvement qui apparaissent et disparaissent. Donc essayons d'expérimenter cette nature insubstantielle de tous les phénomènes. Il me semble que c'est vraiment important que dans notre pratique, nous expérimentions, nous sachions par l'expérience que dukkha, la souffrance, la frustration, l'insatisfaction, l'angoisse, le mal-être, etc. Donc que dukkha s'élève dans l'esprit parce que... Enfin, que dukkha s'élève dans l'esprit dû à un dysfonctionnement de l'esprit. Et non pas parce que il y a tel ou tel phénomène qui s'élève dans l'esprit. Quand nous étudions les quatre nobles vérités, que nous constatons que nous expérimentons dukkha, il nous faut absolument étudier en profondeur la deuxième noble vérité. Quelle est la cause de dukkha? Qu'est-ce qui produit dukkha? Tant que nous ne verrons pas que dukkha s'élève à partir du dysfonctionnement de notre esprit, nous aurons toujours cette tendance à rendre responsable un élément extérieur à nous-mêmes comme étant la cause de ce que nous expérimentons en termes de dukkha. Et ce sera toujours l'autre qui m'a mal parlé, l'autre qui m'a mal regardé, la société, la politique, l'économie, les ennemis, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont n'ont pas pris soin de moi, etc. Et nous passerons notre vie à toujours rejeter la responsabilité sur un élément extérieur à nous-mêmes, alors que si l'on observe bien, eh bien, c'est le fait de saisir ces événements, le fait de saisir les pensées relatives à ces événements, de saisir les facteurs mentaux relatifs à ces événements ou à des projections dans le futur qui fait naître dukkha. Et ça, on nous le dit dans tous les textes sur le Mahamudra, sur la nature de l'esprit, on nous le rabâche sans arrêt. Et nous n'avons pas à croire à tout cela, mais nous avons à vraiment en faire l'expérience. Et si nous estimons que nous devons absolument, fondamentalement changer tout ce qui nous environne pour être heureux, c'est très bien si on peut le faire. C'est un élément qui fait partie de ce qu'on appelle la bodhicitta relative, d'accord, mais il y a des tas de situations et des circonstances que l'on rencontrera, que l'on ne pourra pas fondamentalement modifier et changer. Le fait d'être malade, on ne pourra pas modifier, peut-être que bien sûr on pourra avoir le karma de se soigner, ça je suis d'accord, mais le fait d'être malade, il faudra bien faire avec, il faudra bien l'affronter le jour où on sera malade. Le fait de vieillir, eh bien, il faudra affronter la vieillesse avec tout ce que ça peut entraîner comme aspect pas très réjouissant pour l'esprit. On dit que quand on vieillit, eh bien, il y a des tas de renoncements à faire petit à petit. Et oui, si l'on ne s'est pas entraîné en voyant que la cause de dukkha, c'est comment notre esprit vit tel ou tel événement, comment pourra-t-on faire face de façon paisible à toutes ces situations auxquelles, eh bien, nous serons confrontés. Donc la libération, elle vient de là, elle vient de cette compréhension du fonctionnement de l'esprit et en quoi ce fonctionnement ordinaire de l'esprit, eh bien, est cause de dukkha. Parce que lorsque nous comprenons cela, eh bien, nous comprenons que la libération, c'est transformer ce fonctionnement-là. Et ça, c'est méditer. Ça veut dire méditer. Méditer veut dire entraîner son esprit. Entraîner son esprit à quoi? À modifier ce fonctionnement de l'esprit qui, à l'état ordinaire, eh bien, est cause de dukkha. Ça ne veut pas dire réciter des millions de mantras en pensant tout à fait à autre chose. Ça ne veut pas dire faire des tas de rituels en pensant que le rituel par lui-même, eh bien, va apporter cette transformation de l'esprit. Les rituels, les mantras, c'est très important, mais ce ne sont que des moyens pour transformer ce fonctionnement de l'esprit. Et si ce n'est pas clair dans notre esprit que c'est la saisie de ces facteurs mentaux qui sont cause de dukkha, alors notre pratique, c'est ça pour le moment. C'est vraiment porter notre attention sur ce fonctionnement de façon à en être sûr et ne plus avoir de doute. Tant que nous avons des doutes, notre pratique sera en dents de scie. Le jour où nous n'avons plus de doute, que nous savons vraiment que c'est ça le problème, alors toute notre pratique, eh bien, va consister à transformer et à résoudre ce problème. Ça risque d'aller très vite, si c'est un risque. Et ça, jamais on insistera assez là-dessus. Le problème, c'est que quelquefois, quand on est dans une situation douloureuse, oui, on peut se rendre compte de ça et on a vraiment envie, eh bien, de modifier ce fonctionnement de l'esprit. Mais la difficulté est que quand ça va mieux ou quand on est dans une situation où tout va à peu près bien, ce fonctionnement de l'esprit est ce fonctionnement qu'on connaît bien, est un fonctionnement que l'on connaît bien, et on s'en est toujours accommodé. Alors, on continue de s'en accommoder. C'est pas un jugement, on fonctionne comme ça, on ne connaît en fait que ce fonctionnement-là. Le fonctionnement qui libère, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on veut bien croire que ça libère, on veut bien admettre que tel ou tel individu qui a réalisé l'éveil, eh bien ma foi, il a modifié ce fonctionnement-là, et qu'aujourd'hui, il est libéré. Mais à notre niveau, c'est pas toujours facile de lâcher ce que l'on connaît bien, quoi. Et c'est pourquoi notre pratique, eh bien, elle est un peu en dents de scie, elle manque un petit peu de puissance, d'énergie, etc. C'est pas qu'on est fondamentalement paresseux. C'est pas toujours lié à la paresse, notre cheminement spirituel qui n'avance pas trop vite. C'est lié aussi au fait que ça nous est difficile de lâcher quelque chose, un type de fonctionnement que l'on connaît bien, même si on le sait pas parfait, pour adopter un autre mode de fonctionnement. Alors à chacun d'observer, et comme je l'ai déjà dit, si ce n'est pas clair, faites naître une pensée et entraînez-vous à cela. Faites naître une pensée par rapport à une situation que vous avez vécue dans le passé et qui a été cause de dukkha, qui a fait naître dukkha. Et cette pensée-là, saisissez-la bien, amusez-vous à bien la maintenir, l'amplifier, la retenir, la cultiver. Allez-y, pensez-y, ruminez. Fixez-vous bien dessus et voyez au bout de 10 minutes dans quel état se trouve votre esprit. Faites le lien entre cet état dans lequel se trouve l'esprit et ce fonctionnement de l'esprit. Faites bien le lien entre les deux. Parce que plus nous nous habituerons à faire ce lien, lorsque notre esprit, sans en être conscient, eh bien, nous sera dans cet état-là, on pourra se dire, mais dis donc, aujourd'hui, j'ai vraiment, je ne me sens pas bien, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans mon fonctionnement de l'esprit, dont je ne suis pas forcément conscient, mais je peux faire le lien entre l'état que je suis en train de vivre et puis apparemment un fonctionnement. Et là, on peut déceler à ce moment-là et analyser ce fonctionnement. Et là, on peut intervenir pour modifier quelque chose et pour faire disparaître, eh bien, cet élément dans ce fonctionnement qui est cause de l'état dans lequel je me trouve. Nous avons besoin d'être les acteurs de notre transformation spirituelle. N'attendons pas de façon passive à ce qu'un miracle un jour se produise. Méditer veut dire voir les choses, intervenir, transformer. Alors c'est tout le sujet un petit peu de ce qu'on voit ce soir, parce que nous sommes à la 7e et 8e strophe, je crois, de ce texte du Mahamudra, qui va terminer en fait les préludes, enfin cette partie qu'on appelle les préludes, et qui que l'on verra donc en septembre, on verra la vue, ce qu'on appelle la vue, le développement de ce qu'on appelle la vue dans le Mahamudra, même si ce soir on va un peu parler déjà de la vue. La septième strophe, elle est importante parce qu'elle explique le dysfonctionnement de l'esprit. D'où vient, pas d'où vient. En quoi consiste ce dysfonctionnement de l'esprit? Alors ça, c'est une strophe qu'il faut vraiment, vraiment comprendre et retenir. Le fondement de purification, deux points, l'esprit en soi, union de la clarté et de la vacuité. Le purificateur, la pratique adamantine du Mahamudra. L'objet de purification, les tâches de l'illusion adventice. Le résultat de la purification, l'actualisation du Dharmakaya sans tâche. Donc dans cette strophe, on voit le fondement de purification. Hein, qu'est-ce qu'on purifie quand on médite? Le purificateur, l'objet de purification et le résultat de la purification. Et c'est intéressant, dans cette strophe, il y a quatre fois le mot purification. Et on va voir que purification égale transformation de l'esprit. C'est-à-dire qu'une pratique, même la pratique de Vajrasattva, si on est habitué de faire cette pratique de Vajrasattva, si elle ne transforme pas ce fonctionnement de l'esprit, mais ça ne purifie rien du tout. La purification, c'est synonyme de transformation du fonctionnement de l'esprit. Alors, Bhokhara Rinpoche, dans ce commentaire, il commence par redéfinir ce qu'on entend par esprit dans le bouddhisme. Il explique que ce qu'on appelle l'esprit, c'est ce qui ressent, ce qui fait l'expérience de la joie, de la douleur, de la tristesse ou du bonheur. Bien. Et cet esprit, c'est le fondement de purification. C'est ça qu'il faut purifier. Et il définit, le Karmapa définit l'esprit comme étant l'union de la clarté et de la vacuité. Alors on retrouve toujours ces deux termes et toujours cette définition que l'esprit, c'est l'union de ces deux termes. Quand on dit que l'esprit est vacuité, cela veut dire qu'on ne peut pas attribuer à l'esprit des caractéristiques quantifiables que l'on peut attribuer à des objets. On ne peut pas trouver de couleur à l'esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas dire qu'il a telle forme, qu'il a telle substance, qu'il a tel poids, qu'il commence à tel endroit, qu'il se termine à tel autre, etc. Personne, même le plus grand méditant qui soit, même le Bouddha, n'a jamais vu l'esprit. Donc l'esprit est dit vide de ses caractéristiques. On ne peut pas attribuer de telles caractéristiques. On attribue aux phénomènes ou aux objets à l'esprit. Est-ce que pour autant l'esprit est inexistant? On est tous obligés de dire non, puisque on fait tous l'expérience de la joie, du bonheur, de la tristesse, de la souffrance, etc. Alors personne n'a vu l'esprit, on ne sait pas où il se trouve, mais il y a quelque chose, quoi. Alors, que dit Rinpoche? Parce que c'est plus clair quand même quand c'est un Rinpoche qui commente. Alors, quelle est toutefois son essence? On ne peut pas le définir en tant que chose. Il n'a ni forme, ni volume, ni couleur. Il est dénué de toute marque distinctive s'appliquant aux objets. Il n'est pas non plus localisable, on ne peut le situer ni à l'intérieur du corps, ni à l'extérieur, ni dans quelque espace intermédiaire entre les deux. Cette absence de caractéristiques objectives ou quantifiables est ce qu'on nomme la vacuité de l'esprit. L'esprit est vide, mais il n'est pas pour autant une vacuité qui serait un néant, parce que l'esprit est aussi clarté. Et la clarté, alors, comment il l'a défini? La clarté, c'est précisément la faculté de ressentir bonheur ou souffrance, ainsi que la capacité de créer de multiples pensées. Donc, en fait, ce qu'on appelle clarté de l'esprit, c'est la dynamique de l'esprit, le mouvement de l'esprit, la potentialité de se manifester, de prendre forme. Et ces deux notions, vacuité et clarté, c'est une seule et même chose. Ça définit une seule et même chose. L'esprit, c'est l'union de ces deux qualités. Il n'y a pas la clarté d'un côté et puis la vacuité de l'autre. C'est indissociable. Et tous les textes sur la nature de l'esprit parlent de l'union de la vacuité et de la clarté. Le sutra de la grande sagesse, la Prajnaparamita, se termine par le vide et forme. Virgule, la forme est vide. L'un ne peut pas apparaître sans l'autre. En d'autres termes, bodhicitta ultime, le vide, et bodhicitta relative, la forme ou la clarté, c'est les deux ailes d'un oiseau, on dit. C'est les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut pas être sans l'autre. C'est très important de comprendre ça, parce que nous ne reconnaissons pas maintenant l'union essentielle de ces deux éléments. Et nous séparons les choses. Une division s'est au contraire installée, et cette division, elle s'est installée on ne sait pas quand. Et ne demandez pas à un pratiquant bouddhiste quand est-ce que cette division entre vacuité et clarté a débuté. Parce que ça, le bouddhisme ne répondra pas à cette question. Cette division, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, parce qu'on ignore que l'esprit est l'union de ces deux aspects. Et il y a une question qui a été posée à Rinpoche concernant l'origine de l'ignorance. Et Rinpoche a répondu à la personne en posant cette question. Est-ce que vous parlez tibétain? Non. Depuis quand vous ne parlez pas tibétain? C'est exactement la même question, si vous voulez, quand on cherche l'origine de l'ignorance. Je sais bien qu'il y a des tas de voies spirituelles qui donnent une origine, qui remontent mythiquement, si vous voulez, hein, à cette origine. Quand vous ouvrez la Bible, on voit bien que au départ, il y a une description de l'Éden, c'est-à-dire de l'union. Tout était en union. Après, Madame a mangé la pomme. Donc, séparation. Ils virent qu'ils étaient nus, ils virent qu'il y avait des animaux féroces, etc. Apparition de la dualité. Et je crois que la tradition chrétienne, à l'apparition de cette dualité, ils appellent ça la chute. Et d'autres voies spirituelles appellent ça la chute. Ça veut bien dire qu'au départ, il y avait en fait une union, et puis qu'ensuite il y a apparition de la dualité. Nous sommes complètement dans la dualité. Cette dualité, ce fonctionnement duel, en fait, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Réaliser l'éveil, c'est le retour à l'union, c'est réaliser que la nature de l'esprit, c'est l'union de la vacuité et de la clarté. Alors, comment fonctionne maintenant cette dualité? Donc, une division s'est au contraire installée sous l'effet de laquelle la vacuité s'est figée dans la notion d'un moi. Elle s'est séparée de la clarté, donc, d'un sujet, tandis que la clarté est devenue l'autre, c'est-à-dire l'objet. Et c'est dans cette dualité, dans cet espace entre le sujet et l'objet, dans cette séparation, que toute la souffrance se crée. Parce qu'à chaque fois que l'objet, qui est vu comme séparé par le sujet, est perçu comme agréable par le sujet, eh bien c'est le désir attachement qui naît dans l'esprit pour s'approprier cet objet. Et on veut cet objet. Donc il y a une volition à ce moment-là très forte. À chaque fois, au contraire, que l'objet est vu comme négatif ou par le sujet, il y a une volition encore très forte qui s'élève. Hein, mais c'est la volition, c'est le vouloir de se séparer de cet objet. Et donc il y a le rejet, l'aversion, la haine, etc. Eh bien, qui s'élève. Et puis, l'objet qui n'est ni agréable ni désagréable pour le sujet, eh bien, c'est l'opacité mentale, un état d'indifférence qui s'élève dans l'esprit. Ces trois facteurs perturbateurs qu'on appelle les trois poisons de l'esprit, on voit bien qu'ils ne peuvent s'élever dans l'esprit qu'à partir de cette dualité. Que dans ce fonctionnement de l'esprit, en tant que fonctionnement duel. Et ces trois facteurs perturbateurs sont appelés les trois poisons de l'esprit parce que sans arrêt, nous passons de l'un à l'autre. Tant que l'ignorance fondamentale n'est pas déracinée, donc tant que nous fonctionnons en mode duel, eh bien dans cette dualité, on agit parce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on s'en fout. En gros, c'est ça. Et alors vous rajoutez les deux autres qui s'élèvent à partir de ces trois-là principaux, à savoir la jalousie et l'orgueil, et là vous avez le panel complet de ce qui dirige le monde qu'on appelle le samsara. Mais le samsara, et samsara veut dire souffrance, hein, donc le samsara fonctionne à partir de ces facteurs perturbateurs, des actes que ces facteurs perturbateurs nous poussent à accomplir sous leur emprise, et c'est donc le samsara fonctionne à partir de l'ignorance fondamentale, à partir de la dualité, à partir de cette séparation. Donc si notre pratique ne nous conduit pas à réduire cette dualité, ce n'est pas une pratique qui nous conduit à la libération de la souffrance. Or, c'est tout l'objectif quand même du dharma. La souffrance, elle est due à cette dualité, à ce fonctionnement en mode duel. Sujet, objet, moi, les autres, voilà. Bien que cette dualité sujet-objet soit fictive, nous lui attribuons une réalité. Nous nous trouvons dès lors dans l'erreur, dans l'illusion. Hein? Et on parle souvent de cette erreur en termes d'illusion. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. L'esprit n'a jamais été, n'a jamais existé en ayant séparé la vacuité et la clarté. C'est une croyance, c'est une illusion. On croit que, on imagine que, on fonctionne comme ça, que l'esprit fonctionne comme ça. C'est pour ça que, par exemple, l'éveil, eh bien, la réalisation de cette union, mais c'est en fait la réalisation, ce qu'on pourrait appeler l'union primordiale. C'est-à-dire faire l'expérience que cette union a toujours été là. L'éveil, ce n'est pas quelque chose que l'on va acquérir, quelque chose que l'on n'a pas et que par notre pratique, on va acquérir. C'est au contraire quelque chose qui va se dissoudre, qui va se retirer. Ce qui va se retirer, c'est l'ignorance. C'est cette conception de la dualité. Et c'est pourquoi, surtout dans le Theravada, on parle de l'éveil en termes d'extinction. C'est pas l'extinction de la personne, c'est pas l'extinction du phénomène, de l'individu, etc. C'est l'extinction de cette croyance en ce mode de fonctionnement de l'esprit, hein, sous un mode duel. Quand on dit c'est mon ego qui se manifeste comme ça, ah j'ai agi comme ça, bah oui mon ego est encore puissant, etc. Dans cette façon d'analyser, on affirme encore l'existence de quelque chose qui n'a jamais eu d'existence. Il faut partir du principe que cet ego c'est une illusion, c'est une croyance. Donc il n'y a pas d'ego à déraciner. Il ne faut pas déraciner l'ego, il n'y en a pas. Ce qu'il faut déraciner, c'est la croyance en son existence. C'est la croyance. C'est un mode de fonctionnement. C'est un formatage, si vous voulez. Alors, c'est difficile. Je suis bien d'accord, hein. C'est difficile parce que ce formatage, eh bien, on l'a depuis des temps sans commencement. On est conditionné de cette façon-là depuis des temps sans commencement. Et je pense que c'est tellement difficile pour l'être de réaliser que c'est une erreur, que cette conception d'un tel fonctionnement, que lorsque le Bouddha l'a réalisé, il a dit « je ne peux pas l'enseigner, parce que personne ne comprendra ça ». Il est resté 8 jours, rappelez-vous, relisez la vie du Bouddha, après son éveil, il est resté 8 jours en silence total en disant « je ne peux pas enseigner ça ». C'est contre la croyance de tout le monde, de tous les êtres, quoi. Et ensuite, il s'est dit « mais si je l'ai compris », d'autres peuvent le comprendre. Mais ça veut dire que c'est quand même pas quelque chose qui est concevable, facilement en tout cas, pour les humains. Et à tel point qu'il y a beaucoup de voies spirituelles, eh bien, qui ont divinisé cette entité, ce sujet. La notion d'âme, c'est ça, quoi. Dans l'atman, dans l'hindouisme, hein, et je ne sais pas dans le christianisme, mais cette notion d'individualité, sujet, propre à chaque être, indestructible, permanente, etc., c'est tellement puissant chez l'humain que beaucoup de voies spirituelles ont divinisé cette croyance en l'existence d'une telle entité, en lui attribuant toutes les qualités divines, d'accord ? Mais le bouddhisme refuse cela, quoi. Pour le bouddhisme, cette entité-là, qu'elle soit ordinaire ou divine, n'a jamais existé. C'est une croyance de l'être que d'exister sous ce mode d'être. Mais ça montre quand même que réaliser le non-soi, c'est quand même pas facile, quoi. Et qu'il va falloir vraiment s'entraîner. Et s'entraîner, je redis, c'est un déconditionnement, en fait, de l'esprit. On parle de purification. Ben oui, il faut se déconditionner. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on repère la saisie qui se manifeste dans notre esprit, on doit pouvoir observer cette saisie et rectifier. Ça demande la vigilance, ça demande l'attention à ce qui s'élève dans l'esprit. Ça, c'est chiné. Et le fait de constater que c'est une erreur de saisir ce phénomène-là, restons dans le non-soi des phénomènes, mais que ce phénomène, je ne peux pas le saisir parce qu'il est totalement impermanent. Si je pouvais le saisir, ça voudrait dire que je peux le tenir, que je peux le solidifier. Donc je lui attribue un caractère de permanence. Or, il est totalement impermanent. Et amusez-vous à observer les phénomènes, les pensées, même des pensées qui... relatives à une situation, par exemple, pénible, vécue il y a quelque temps. Observez la présence de cette pensée, mais voyez le caractère totalement insubstantiel, impermanent de cette pensée, et voyez combien de temps cette pensée demeure dans votre esprit si vous ne la retenez pas. Maximum 3 minutes, elle a disparu, quoi. Alors, vous savez, toutes les pensées qui nous empêchent de dormir, tout ce qu'on peut ruminer, on nous annonce, par exemple, une mauvaise nouvelle, et on est là à cogiter, à ne plus pouvoir se libérer de ce type de pensée. Ça veut dire que de façon inconsciente, ça je suis bien d'accord, mais la saisie, elle est très puissante. Il y a la saisie grossière que l'on voit se manifester quand on pique une petite colère, etc. Voilà. Mais il y a une saisie inconsciente et qui est due, en fait, au conditionnement de notre esprit, aux tendances de notre esprit. Voilà pourquoi il faut s'entraîner à ne pas saisir. Parce que cet entraînement-là va purifier cette tendance, va purifier, eh bien, cette façon de fonctionner, et va purifier tout le domaine inconscient de cette saisie qui, malgré nous, eh bien, continue de se manifester quand on fait face à une situation trop violente, trop prégnante, etc. Donc voilà, la pratique, eh bien, prend du temps, quoi. Donc, illusion et dualité se réfèrent aux mêmes défauts de fonctionnement. Soyons clairs, c'est la dualité qu'il faut éliminer. C'est la tâche qui recouvre notre esprit, bien qu'en réalité nous soyons dépourvus de dualité. En raison de notre absence de réalisation, nous vivons continuellement en termes de moi et autres séparés. Et le texte est clair dans la strophe, c'est l'objet de purification. C'est donc ce dysfonctionnement dont il faut se débarrasser. C'est ça l'objectif de notre pratique. Et ça a le mérite d'être clair dans Voka Rinpoche, a le mérite d'être clair dans le commentaire. Nous pratiquons, eh bien, pour nous débarrasser de ce type de fonctionnement. Et c'est pas pour autre chose que nous pratiquons la méditation et le dharma, quoi. Et soyons clairs, ne nous trompons pas d'objectif dans notre pratique méditative. La dualité est adventice, comme dit le texte, ce qui signifie qu'elle ne fait pas partie de l'essence de l'esprit. Elle est une simple erreur, et c'est pourquoi il est possible de l'éliminer, alors que ce serait impossible si elle était de la nature même de l'esprit. La dualité ne correspond pas à la réalité. L'esprit n'a jamais fonctionné selon ce mode duel. On a un voile, c'est le cas de le dire, on a un voile. Et cette dualité en elle-même, c'est un voile. Et ça fait partie des quatre voiles qui recouvrent l'esprit, c'est-à-dire qui nous empêchent de réaliser cette union. Donc, ok, le voile de la dualité, bien. Mais qu'entraîne ce fonctionnement en tant que voile, cette dualité, qu'est-ce qu'elle entraîne comme autre voile? Elle entraîne le voile des facteurs perturbateurs. On a vu tout à l'heure que ces facteurs perturbateurs ne peuvent s'élever que dans cet espace existant entre le sujet et l'objet. Ce voile des facteurs perturbateurs, à chaque fois qu'on saute à pieds joints dans un facteur perturbateur, eh bien, on entretient ce voile. Mais en même temps, on n'entretient pas seulement ce voile-là. On entretient le voile de la dualité, puisque c'est celui-ci qui le produit. Donc, en fait, ces deux voiles, eh bien, ils s'alimentent, s'auto-alimentent, ou ils s'alimentent l'un l'autre. Et le voile des facteurs perturbateurs, quand on est complètement sous son emprise, quel est le troisième voile qui se met en place automatiquement? Le voile du karma. On agit. Mais notre acte n'est pas un acte pur. Il n'est pas libre de cette ignorance. Il est soumis à cette ignorance. Il est conditionné par cette ignorance. Donc le fait d'agir sous l'emprise de l'ignorance, c'est un voile. Et enfin, le quatrième voile, c'est le voile des tendances, c'est-à-dire c'est cette habitude à fonctionner en mode duel continuellement. Et alors ces quatre voiles, en fait, ils se nourrissent les uns les autres. Ça s'entretient lentement les uns les autres. Et le voile des tendances, Kalo Rinpoche disait que c'était le voile le plus long à purifier, parce que c'est vraiment les tendances, les empreintes karmiques, inconscientes, etc., tout le rucksack karmique qu'on a dans la conscience de base, la laya vijnana, c'est tout là. Et on continue, même si on comprend ce fonctionnement intellectuellement, même si on décide de ne plus fonctionner de cette façon-là, tout à l'heure il y a un événement qui se produit, un phénomène qui se produit, une de nos consciences entre en contact avec ce phénomène-là, immédiatement, sensation, contact, soif, saisie, action. Et ça, et on fonctionne comme ça. Donc il faut avoir en fait une attention vraiment très fine, mais surtout constante, par rapport au fonctionnement de notre esprit, de façon à pouvoir rectifier dès qu'on est conscient de ce mode de fonctionnement-là. D'où l'importance de s'asseoir sur son coussin pour entraîner notre esprit à cela, à voir. Et c'est vraiment pourquoi on appelle l'actong la vision pénétrante, parce qu'il faut arriver à voir, à pénétrer la nature même de ce fonctionnement-là pour voir qu'il est erroné et qu'il cause la souffrance. Mais il faut aussi s'entraîner tout le temps, pas seulement sur notre coussin, à tout moment, à chaque instant, puisqu'il n'y a que l'instant présent qui est existant, à chaque instant, c'est comment est mon esprit? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Est-ce que là, il y a une saisie ou pas? Et on le sent très bien. Si notre esprit est complètement détendu, clair, lucide, conscient, dans un état de total bien-être, ça veut dire qu'il n'y a pas de saisie à ce moment-là. Si notre esprit, au contraire, est plutôt crispé, tendu, eh bien, ça veut dire qu'il y a, par rapport à ce avec quoi je suis en contact, eh bien, il y a un accrochage, un fait de solidifier ce avec quoi je suis en contact. Et parce que je suis en mode de fonctionnement duel. Je pense que ça, il faut vraiment, 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 mais vraiment en faire l'expérience, parce que là, on touche la deuxième noble vérité, la cause de dukkha. Et qu'en faisant cette expérience-là, on peut faire l'expérience de la troisième noble vérité. Sans la saisie, dukkha n'apparaît pas, quoi. Donc il y a une cessation possible. Et alors après, la quatrième noble vérité, c'est comment faire ce cheminement-là. Mais la deuxième est vraiment très importante. Il ne s'agit pas de s'arrêter à la première, de dire oui, ok, je souffre, et passer à la troisième, soi-disant, il y a une cessation possible, bon, alors vite, comment faire pour ne plus souffrir, donc passer à la quatrième. Il ne faut pas oublier la deuxième. À mon avis, c'est la deuxième la plus importante. Il faut vraiment, vraiment voir quelle est l'origine de dukkha. Parce que troisième et quatrième vont découler de notre compréhension de l'origine de dukkha. Alors allez-y, retravaillez les quatre nobles vérités, et notamment la deuxième. Et cette strophe-là, elle parle de cette deuxième noble vérité. Elle nous montre comment dukkha se met en place. Alors maintenant, quel est le purificateur? C'est-à-dire, comme dit la méthode, comme dit le texte, le purificateur, la pratique adamantine du Mahamudra. Donc le purificateur qui permet d'éliminer la dualité, ce sont tous les aspects du Dharma, et plus particulièrement la pratique adamantine du Mahamudra. Que comprend cette pratique du Mahamudra? Shine Laktonk. Shine, la non-distraction, l'apprentissage de la non-distraction, donc cette qualité d'être attentif à ce qui se passe dans l'esprit. Et quand on parle d'attention, ce n'est pas uniquement la concentration sur quoi on est en train sur l'objet que l'on est en train de faire, c'est en même temps d'être concentré sur ce que l'on est en train de faire, d'accord, mais en même temps, c'est aussi qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit, comment est mon esprit. Tout ça, c'est chiné. Et en même temps, il y a l'acton, comme on disait, on voit que tout ce qui apparaît dans l'esprit est totalement impermanent, totalement dépourvu d'existence propre. C'est lié à tout un ensemble de causes et de conditions. Donc, chacune de notre pratique méditative doit associer ces deux éléments. Shine, la non-distraction, et l'aktong, la vision pénétrante. Si vous faites une pratique du Vajrayana, vous avez phase de développement, phase d'achèvement. Tout y est. Si vous faites une pratique du Sutrayana avec, par exemple, simplement observer l'esprit avec support sur le souffle d'abord pour calmer l'esprit, etc. Mais vous devez associer l'aktong à la pratique de Shine. Shine ne permet pas la sagesse, ne permet pas le déracinement de ce mode de fonctionnement duel. Nous avons besoin de Shine, nous avons besoin de la concentration, de la non-distraction, pour pouvoir observer ensuite. Il faut que l'esprit soit calme pour qu'il observe ce qui se passe. S'il n'est pas calme, il ne peut rien observer. S'il se laisse emporter par la moindre pensée, par le moindre facteur mental, il n'y a pas possibilité d'observer. Donc on a besoin du calme, de la stabilité, mais il faut absolument passer à l'acton, quoi. Et ça, c'est la méthode. Ces méditations apprennent à laisser demeurer l'esprit dans son essence, là où il est libre de la dualité. Le problème, c'est que, à cause de nos tendances, nous avons l'habitude de trier ce qui apparaît à l'esprit, de retenir ce qui nous est agréable, mais quand il y a une pensée relative à quelque chose que nous avons, par exemple, vécu ou que nous craignons, et que cette pensée s'élève dans l'esprit, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Surtout pas que je pense à ça, il faut que je passe à autre chose, que je me distrais, que voilà. Et en fait, on réagit souvent comme ça. Regardez le nombre de personnes, quand vous venez le week-end à Luce, à 18h, qu'on fait silence, le nombre de personnes qui sont mal avec le silence. Parce que le silence, ça permet quoi? Il n'y a plus que l'esprit à regarder. Pas trop se distraire en discutant avec le voisin ou la voisine. Alors, vous avez des personnes qui sont tellement mal à l'aise avec ça que tout de suite, elles transforment le truc. Manque de convivialité, on est quand même des êtres sociaux, il faut quand même échanger, on est là pour échanger, on ne se voit pas souvent, etc. Ben oui. Il y a la haine du silence. Dans nos sociétés, il y a la haine du silence. Il n'y a pas un moment où beaucoup de personnes, même seules chez elles, elles mettent un fond sonore. Télé, radio, n'importe quoi, mais... Hein? C'est pas pour rien. Et alors, quand vous passez 8 jours en silence total, au début, effectivement, on a l'impression d'être complètement anormaux, quoi. On a l'impression de marcher en regardant nos pieds. Est-ce que je suis bien normal? Les autres ont l'air aussi bizarres que moi dans leur comportement, etc. Mais à partir du moment où le silence s'installe et où on commence à goûter la présence du silence, eh bien, on voit que ce silence est une opportunité pour observer ce qui se passe dans l'esprit. Et que sans le silence, on a rarement l'occasion, ou du moins, c'est plus difficile, eh bien, d'avoir l'occasion de regarder vraiment ce qui se passe dans notre esprit. Et plus nous progressons dans la méditation, plus nous nous purifions des tâches de la saisie duelle. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous sommes conscients de ce fonctionnement duel et que nous intervenons pour dissiper, pour dissoudre cette dualité, alors là nous purifions. C'est ça la purification. C'est contrer le fonctionnement ordinaire de l'esprit. Et pour ça, quelquefois c'est difficile, quelquefois on rate, et ce n'est pas grave si on rate. Quand on a raté, de toute façon c'est fini. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, dans l'instant présent, comment est mon esprit? Et là, je me relève et je recommence mon travail. Et tant pis si je rate une deuxième fois. C'est pas le problème de rater. Le problème dans notre pratique, c'est de ne pas se relever. C'est de ne pas se remettre dans l'axe, dans l'instant présent. La culpabilité, elle vient de là. Elle vient le fait de ne pas accepter que l'on chute. Mais on peut chuter 100 000 fois de suite. Où est le problème? Si à chaque fois on se relève, c'est ça la pratique. Culpabilité, c'est de se dire, je suis dans la chute et puis alors ma foi, je ne peux plus rien faire pour me relever. Alors là, c'est sûr qu'on ne se relève pas et on ne peut pas repartir. Donc plus nous progressons dans la méditation, plus nous nous purifions des tâches de la saisie duelle. Lorsqu'elle est totalement éliminée, la nature immaculée de l'esprit se révèle. Quand cette actualisation devient permanente et libre de tout voile, c'est l'éveil, la réalisation du corps absolu, le dharmakaya, au-delà de toute complication mentale. C'est le résultat de la purification, ce qui au niveau du fondement était caché par les impuretés, apparaît désormais dans sa pureté originelle. Et l'éveil, ça ne se produit pas forcément en une seule fois, comme une espèce de éclair spirituel qui, tout à coup, tout s'ouvre. Il peut y avoir, des expériences d'éveil. À chaque fois, dans l'instant présent, lorsqu'on ne saisit pas, il y a une ouverture qui se crée. Ça ne dure qu'une seconde, mais c'est une seconde d'éveil. L'éveil, c'est pas autre chose. C'est une seconde d'éveil. Pourquoi toujours imaginer que l'éveil, c'est quelque chose qui va être une espèce de flash, j'en sais rien, ce qu'on peut imaginer, et qui va se produire bien loin devant. Non, ça ne peut se produire que dans l'instant présent. Mais lorsque ça se produit dans l'instant présent et que ça ne dure pas, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, puis après, il y a les tendances, les habitudes de l'esprit, qui reprennent le dessus. Mais même si ça dure assez longtemps, il ne faut surtout pas s'arrêter de méditer. Et Kalo Rinpoche nous le rappelait, il disait, mais si vous vous arrêtez de méditer alors que vous avez une expérience spirituelle, une expérience de la nature de l'esprit, une expérience de la vacuité, eh bien, l'effort s'arrête et alors les grosses tendances de l'esprit reviennent. On peut tous faire cette expérience-là lorsque on se prend 8 jours, par exemple, on se dit, oh là, il me faut vraiment des vacances, je ne médite plus pendant 8 jours. Bah, regardez comment, au bout de 8 jours, comment fonctionne notre esprit. On a eu beaucoup de mal pendant 6 mois, peut-être, dans notre régularité de la pratique, pour arriver un petit peu à canaliser un peu notre esprit. 8 jours de non-pratique, on voit que c'est la confusion, ça rebouillonne bien, tous les bons fonctionnements ordinaires de l'esprit sont redevenus tout aussi puissants. Dès qu'il y a une faille, en fait, ça s'infiltre par la faille. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dur avec soi-même, hein. Mais ça veut dire que il faut le faire, il faut le maintenir. Il faut maintenir notre pratique. Alors, 8e strophe. Couper court aux spéculations sur le fondement, c'est l'assurance de la vue. S'y maintenir sans distraction, c'est le principe de la méditation. Fortifier la méditation en toutes circonstances, c'est l'action supérieure. Puissais-je avoir l'assurance de la vue, de la méditation et de l'action? Donc dans beaucoup de textes, on voit comme synonyme de notre cheminement spirituel ces 3 termes, la vue, la méditation et l'action. Couper court aux spéculations sur le fondement, c'est l'assurance de la vue. Alors, comment Bhokha Rinpoche décrit la vue? Le terme vue désigne la position théorique ou philosophique sur la nature des choses. Avoir la vue, c'est comprendre ce que l'on veut dire par non soi des phénomènes, non soi de l'individu. C'est comprendre la loi de causalité. Comprendre la loi d'interdépendance de toute chose. Comprendre que tous les phénomènes sont impermanents. Et cette vue, pour vraiment l'avoir, c'est-à-dire en faire l'expérience, ce n'est pas une théorie qu'on doit accepter comme ça parce que le Bouddha l'a dit, ou l'a enseigné, ou parce que tel maître aujourd'hui du Mahamudra nous l'enseigne. Nous devons absolument observer les choses, observer les phénomènes, observer le fonctionnement de notre esprit, et voir que tous ces phénomènes, que ce soit les phénomènes intérieurs ou les phénomènes extérieurs, ils se mettent en place à partir de causes et de conditions. Ben ça, c'est la loi de causalité. C'est la loi de l'interdépendance de toute chose. Et si l'on n'est pas sûr de ça, prenons n'importe quel objet, n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, n'importe quel phénomène intérieur, mental, etc. Et voyons, observons, faisons l'expérience, analysons et concluons que, effectivement, ça ne peut pas se produire comme ça, par soi-même, en soi-même. Ça n'a pas d'existence propre. Tout existe à partir de cette interdépendance de toute chose. Donc, tout est vide d'entité propre, d'existence intrinsèque. Et ça, c'est la vue. Et posséder la vue, qui est le fondement de notre pratique, c'est ne plus avoir de doute par rapport à la vue, quoi. Ça veut dire que tant que ce n'est pas clair dans notre esprit, eh bien, nous devons analyser, observer, encore, encore et encore, jusqu'à en être absolument sûr, certain, et qu'il n'y ait plus de doute dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle la vérité relative. Mais on considère aussi, d'autre part, que cette loi du karma, par exemple, est en essence dépourvue d'entité propre. C'est la vérité absolue. Ne plus nourrir de spéculations sur la nature des choses, mais avoir gagné l'assurance qu'elle est l'union du relatif et de l'absolu, constitue la vue du Mahamudra. Ne pas se départir de cette union du relatif et de l'absolu, libre de tout extrême. Se maintenir sans distraction dans la réalité qu'elle décrit et préserver cette présence, c'est ce qu'on appelle la méditation du Mahamudra. Donc la méditation, eh bien, c'est entraîner à appliquer la vue sur tout ce qui se passe et dans toutes circonstances. Donc, pas seulement quand on est sur notre coussin, mais dès qu'on entre en contact avec un objet, observer ce qui se passe dans notre esprit et appliquer la vue pour rectifier, eh bien, ce fonctionnement que l'on repère comme étant erroné. Donc méditer est bien synonyme d'entraîner notre esprit, d'appliquer encore et encore. Et l'action, alors l'action qui permet de fortifier cette méditation. Et là, il y a trois éléments dans cette action qui va permettre de fortifier cette méditation. C'est le renoncement au samsara. Alors renoncement au samsara, je sais bien qu'on n'aime pas trop cette expression, mais le renoncement au samsara, c'est le renoncement à la souffrance. Samsara, ça veut dire ça. Samsara, c'est un terme qui définit la confusion de notre esprit ou le dysfonctionnement de notre esprit, lequel fonctionnement entraîne la souffrance. Samsara, c'est synonyme de souffrance. Donc, renoncer au samsara, c'est renoncer à la souffrance, pour soi et pour autrui. Eh bien, il y a un jour, il va falloir vraiment dire, je ne veux plus, et je ne veux plus de la souffrance. Ni pour moi, ni pour les autres. Là, la bodhicitta va devenir puissante. Et il ne faudra surtout pas s'oublier. Mais ni pour soi, ni pour autrui. Mais il y a un moment donné, ce renoncement au samsara, il va falloir que ce soit un engagement. Et que chacun prenne un engagement. C'est-à-dire donne une force à notre esprit. Sinon, on sera toujours une espèce d'eau tiède qui pratiquera quand ça ne n'ira pas, et puis quand ça ira bien, il part dans la distraction et il oublie que ce dysfonctionnement de l'esprit est cause de souffrance. C'est ce que veut dire quand Rinpoche dit « Don't try to do it, do it ». Il n'y a pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'on prend les vœux, qu'on a les trois types de vœux dans le Dharma. Il y en a qui peuvent prendre les vœux de fidèles laïcs ou les vœux monastique, ça c'est les vœux de libération personnelle. Pourquoi est-ce qu'on prend les vœux? C'est parce qu'on se dit, ça, stop. Je ne veux plus de ce type de fonctionnement. Alors je m'oblige à ne plus avoir ce type de fonctionnement. Et je suis obligé de prendre des vœux parce que je négocie constamment. Alors à un moment donné, il faut arrêter de négocier, quoi. Les vœux de Bodhisattva, c'est exactement ça aussi. C'est je veux bien m'occuper de mes proches, je veux bien avoir de la compassion, être moins cause de souffrance pour mes proches. Mais le vœu de Bodhisattva, c'est pour tous les êtres. C'est-à-dire je développe cette force dans l'esprit et cette équanimité dans cette motivation de dire non à la souffrance, non seulement pour moi, non seulement pour mes proches, mais pour tous les êtres. Il n'y a pas de différence entre tous les êtres et puis mes proches. Ou moi, quoi. Personne n'a envie de souffrir. Donc, ce vœu de Bodhisattva, eh bien, donne de la force à l'esprit. Mais ça rejoint cette notion d'engagement. Les vœux du Vajrayana, c'est pareil. Parce que c'est prendre l'engagement, eh bien, de pratiquer selon le Vajrayana, mais pour mettre un terme à ce dysfonctionnement de l'esprit. Quel que soit le type de vœux que l'on prend, en fait, ça se ramène toujours à un engagement que l'on prend dans notre esprit. Il y a un jour, il va falloir prendre cet engagement, quoi, si ce n'est déjà fait. Et c'est ça le renoncement au samsara. Et renoncer au samsara, renoncer à la souffrance, ça consiste à renoncer à la cause de la souffrance. Ça rejoint la vue. Si je sais que c'est la saisie qui est cause de la souffrance, mais voilà à quoi je vais renoncer. Mais il faut que je la repère. Tout ça, c'est le renoncement au samsara. Le deuxième élément qui va fortifier notre pratique, ça découle de ça, c'est la compassion. la bodhicitta, la compassion, mais parce que c'est lié à la compréhension de l'origine de la souffrance. La compassion, c'est lié à la souffrance, c'est vouloir mettre un terme à la souffrance, faire que, en sorte que l'autre ne souffre plus. Mais si je ne connais pas la cause de la souffrance, comment faire en sorte que l'autre ne souffre plus? Si je n'ai pas expérimenté sur moi que la saisie est cause de souffrance, et que la non-saisie est cause d'un bonheur absolu, comment enseigner à quelqu'un, montrer à quelqu'un que son problème, ça vient du fait de saisir tout ce qui s'élève dans son esprit? Tant que nous sommes dans l'ignorance, tant que nous n'avons pas cette compréhension sans aucun doute sur la cause de la souffrance, le Bouddha disait, nous sommes des aveugles conduisant des aveugles. Alors, bien sûr qu'il y a la bodhicitta dans cette compassion, il y a la bodhicitta relative. Et c'est très bien d'accomplir des actes pour soulager l'autre, pour faire en sorte que l'autre souffre moins. Mais cette bodhicitta relative, elle doit s'accompagner de la bodhicitta ultime. Nous devons connaître la bodhicitta ultime, mais en termes d'expérience, en termes de, oui, d'expérience spirituelle. La bodhicitta, ça ne se borne pas à de l'humanitaire spirituel, quoi. Il faut qu'il y ait la bodhicitta ultime, la non-saisie, avec. Et quand on a cette compréhension de dukkha, etc., cette compassion, ce n'est plus une simple compassion ou une bodhicitta, on va dire, de surface. C'est quelque chose qui est puissant et qui est profond, quoi. Quand devant 20 000 personnes, le Dalai Lama dit « Tous les êtres dans le samsara font l'expérience de la souffrance » et qu'il pleure, c'est quelque chose qu'il vit intensément dans ses tripes, comme vous pouvez vivre avec vos tripes si un de vos enfants est vraiment dans une situation douloureuse, quoi. Ça n'est plus la tête. La bodhicitta, ça ne passe plus par le raisonnement, etc. Ça passe par le cœur. Et on peut dire, ça passe par les tripes, quoi. À ce moment-là, ça ne se raisonne pas. C'est puissant. Et vous vous oubliez complètement. Vous dites, mais puisse mon gamin ne plus souffrir. Tant pis si c'est moi qui souffre, mais que mon gamin ne souffre plus, quoi. Et vous qui avez des enfants, si vous en avez, mais vous avez tous vécu ça, non? Au moins une fois dans votre vie, quoi. Ça montre qu'il y a cette puissance de l'esprit. Et puis enfin, le troisième élément qui permet de fortifier notre pratique, c'est la dévotion. Alors on parle de la dévotion envers les trois joyaux, de la dévotion envers le lama racine. Mais pourquoi la dévotion qui est présente dans beaucoup de voies spirituelles, présente dans le bouddhisme aussi, mais qui est essentielle dans le Vajrayana, est vraiment si importante? Parce que la dévotion, elle provoque l'ouverture. C'est l'abandon. Quand on est dans l'abandon, il y a ouverture totale de l'esprit. Et c'est dans cette ouverture, eh bien, que cette réalisation de l'union peut s'élever et être expérimentée. Dernièrement, il y avait à Luce, il y avait un groupe interreligieux de Strasbourg. Il y avait une quarantaine de personnes et il y avait un couple de la foi Baha'i. Et elle a pris la parole en disant, c'est curieux chez vous quand même qu'il n'y ait pas de Dieu, qu'il n'y ait pas de créateur. Parce que moi, j'ai eu, une expérience spirituelle par ma dévotion pour Dieu. Et je me suis... Alors elle expliquait qu'elle s'était complètement abandonnée à Dieu. Et que parce qu'elle s'était abandonnée, alors elle avait reçu la grâce spirituelle de Dieu, qui faisait qu'elle avait eu une expérience spirituelle. Alors en discutant et en échangeant entre nous, à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que vous êtes sûr que cette expérience spirituelle est née de la grâce spirituelle de Dieu, ou est-ce qu'elle n'est pas née de votre attitude intérieure de totale dévotion qui a créé cette ouverture? Et en fait, en discutant, on a conclu qu'elle, elle imaginait que c'était la grâce de Dieu, l'influence spirituelle de Dieu, si vous voulez, mais qu'au fond d'elle-même, elle n'était plus très sûre que c'était peut-être son attitude intérieure qui, par sa dévotion pour Dieu, eh bien, avait créé cette ouverture. Et là, on peut se rejoindre parce que, en fait, c'est le but de la dévotion. Quand vous voyez dans l'hindouisme le bhakti yoga, par exemple, hein, cette voie de la dévotion, que vous ayez de la dévotion pour Dieu, pour l'amaracine, les trois joyaux, ou tel principe, etc., c'est le fait d'avoir de la dévotion qui crée cette ouverture. C'est pas l'objet envers qui vous avez la dévotion. Et si on a ces trois éléments, hein, le renoncement au samsara, la bodhicitta et la dévotion, eh bien, il n'y a pas de problème pour transformer ce dysfonctionnement de l'esprit jusqu'à éliminer, eh bien, toute l'erreur que ce dysfonctionnement entraîne et donc réaliser, eh bien, cette nature de l'esprit qui est l'union de la vacuité et de la clarté. Et à cette dernière strophe, enfin à la strophe 8, eh bien, on termine en fait l'introduction du texte. Et au mois de septembre, on verra que les strophes suivantes, eh bien, ça va être un développement de ce qu'on appelle la vue. Voilà. Vous avez un texte comme ça, avec ce type de commentaire d'un Rinpoche qui était vraiment considéré comme un maître du Mahamudra, à tel point que le 16e Karmapa avait appelé Bokhar Rinpoche comme Drupen, c'est-à-dire maître de retraite des lamas, des propres lamas du Karmapa qu'il formait à son monastère à Rumtek au Sikkim. Hein. Il faut vous dire que ce genre de texte, ce genre de commentaire, ce genre d'enseignement, les Tibétains n'avaient jamais accès à ça. Et en tout cas, pas les laïcs. Hein. Même les moines dans les monastères, s'ils n'allaient pas en retraite de longue durée, la troisième année de cette retraite, quand ils abordaient le Mahamudra, là, ils pouvaient recevoir ce genre d'enseignement de la part de tel ou tel maître qui leur rendait visite en retraite. Jamais un laïc n'avait accès à de tels enseignements. En Occident, on est hyper privilégié que de tels textes soient traduits et qu'ils soient diffusés, enseignés, etc. et qu'on puisse les comprendre, y réfléchir et nous entraîner à les mettre en pratique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui.
Pas forcément là-dessus, mais... Dans la vie courante, quand on est confronté à n'importe quoi, il y a j'aime, je n'aime pas, je m'en fous. Et alors, ces trois-là, il n'y a aucun des trois qui est bon. Alors, c'est quoi qui est bon ? Est-ce que c'est juste être conscient de ce qui se passe et c'est tout ?
C'est pas suffisant être conscient de ce qui se passe. C'est être conscient de ce qui se passe, être conscient de notre façon d'agir ou de réagir par rapport à la situation, c'est-à-dire pouvoir repérer que notre réaction à ce qui se passe, ce n'est pas lié à la saisie.
Ça veut dire que si on se rend compte, admettons, ça j'aime, c'est s'en rendre compte et se dire que et savoir ce que fait notre esprit à ce moment-là.
Oui, et puis ça veut dire que vous êtes conscient que ça, ok, j'aime, mais je ne suis plus dépendant de ça. Ça ne vous empêche pas d'aimer, de continuer d'aimer. Mais vous n'êtes plus dépendant de ça. L'aversion, c'est pareil. Vous continuerez peut-être à avoir de l'aversion pour telle situation, etc. Mais en même temps, votre esprit peut être totalement libre de cette aversion. C'est-à-dire, il en est libre, il n'est plus dépendant de cette aversion. Sa façon d'agir dans cette situation, eh bien, ne va pas être dépendante de l'aversion, ne va pas être motivée par l'aversion.
Oui, ça veut dire.
Elle va être motivée par cette liberté.
On se détache de
oui.
on le regarde de loin, on se dit bon d'accord, j'aime ça,
oui.
ou je ne l'aime pas, et puis voilà, au lieu de dire j'aime, j'en ai envie, on dit oui j'aime, mais
j'en ai envie, mais il y a une distance qui reste. Là, quand on parle de saisie, hein, ça veut dire qu'on il y a l'objet qui est là, il y a l'esprit qui est là. L'esprit saisi, ça veut dire quoi? Pour saisir, pour prendre quelque chose, il faut se jeter dessus. Il faut le prendre et on l'amène à soi ou on le rejette, peu importe. Mais ces deux mouvements sont liés au fait de s'identifier à l'objet. Il n'y a plus d'espace entre le sujet et l'objet. Il n'y a plus de distance.
On ne peut pas vivre en se disant « j'aime ça, mais il ne faut pas que j'aime ça » ou « faut pas que
non.
je n'aime pas
non,
ça ».
Non, 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 non. Un Rinpoche, par exemple, il y a des tas de choses qu'il aime. Il y a des tas de choses qu'il n'aime pas. Il y a des sensations pour lui qui sont désagréables. Il y a des sensations qui sont très agréables. Seulement, son esprit est libre de ce mouvement-là, de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que son esprit n'agit pas en dépendance de « j'aime, je n'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable, etc. » Son esprit est libre. Les actes qu'il entreprend pour agir sont totalement libres. Mais il continue d'avoir des sensations. C'est ça qui, pour nous, des fois, est difficile à comprendre. On imagine qu'un individu qui réalise l'éveil, il n'a plus de sensations. Mais si, il se passe des choses dans son esprit. Son esprit continue d'avoir des facteurs mentaux et des pensées, et puis des sensations. S'il se coupe, mais il va avoir mal. C'est pas parce que je suis Dalai Lama que... Regardez, Tengah Rinpoche, Rinpo Rinpoche prend souvent cet exemple. Apparemment, ça l'a impressionné. Tengah Rinpoche, on lui a coupé les deux jambes, on lui a coupé une main, enfin des doigts, on lui a retiré un œil, etc. Et il disait avant de mourir, j'ai jamais eu d'obstacle dans ma vie. Son esprit n'était pas dépendant, eh bien, de cet inconfort, et c'est le moins qu'on puisse dire, de cet inconfort physique. Mais, quand on lui a coupé les jambes, si on ne l'avait pas anesthésié, il aurait eu mal. Hein. Tout Rinpoche qu'il était, quoi. Et au niveau de l'esprit, c'est la même chose. Il s'élève quelque chose dans l'esprit. Seulement, immédiatement, ça se libère. Ça s'auto-libère, on dit. Parce que il n'y a pas de saisie. La saisie a été totalement éradiquée. Donc, il y a ça qui s'élève, mais il n'y a rien pour saisir. Et de toute façon, il y a reconnaissance de la nature de ce qui s'élève. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut être saisi. C'est une apparence qui s'élève, qui apparaît, qui disparaît, mais c'est vécu immédiatement, instantanément. Dès qu'il y a la forme, il y a connaissance du vide. La forme est vide, le vide est forme, alors c'est tout un... Ça se manifeste, mais immédiatement, il y a la nature de la manifestation qui est reconnue. Mais par contre, tout continue de se manifester.
Des choses qui s'entrechoquent dans la tête. D'une part, ce qui a été expliqué de l'union de la clarté et de la vacuité, mais en même temps, cette peur de, comme une goutte d'eau dans la mer, de perdre, enfin oui, de se perdre, même d'être fou, enfin. Il y a quelque chose de profond là qui. Alors, est-ce que. Faut laisser ça mijoter puis que ça s'élimine ou je sais pas comment ou... parce que en fait on sait qu'on est dans quand on est dans un profond état de paix, j'imagine que c'est un peu la reconnaissance de cette union et en même temps ça déclenche une peur profonde sur la perte de comme une goutte d'eau qui va se.
Alors ça, il peut y avoir ce genre de réaction quand on découvre, quand on commence vraiment à comprendre ce que l'on veut dire par union de la vacuité et de la clarté. Quand le Bouddha enseignait ça, il y en a qui s'évanouissaient, quoi. Il faut se familiariser avec ça. Il faut prendre du temps. se familiariser. Et surtout se familiariser, pas seulement avec la théorie, bien que la théorie soit la vue, hein, mais se familiariser avec la méditation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut le faire comme un jeu, quoi. Il faut vraiment s'entraîner. Si on retient ça de l'enseignement, on peut se dire, ok, demain, alors je m'assois, je fais naître une pensée relative à quelque chose que j'ai vécu dans le passé, par exemple, ou quelque chose que je crains pour le futur. Et je saisis cette chose-là. Et quand je ne saisis pas cette chose-là, mais que vit mon esprit? Et on continue bien d'exister. Seulement, ce qui disparaît, c'est, dans le cas de la souffrance, c'est le souffrant. Et dans le cas du bonheur, c'est la conception d'un individu qui fait l'expérience de ce bonheur. C'est le moi, quoi, dans les deux cas. C'est ça qui disparaît. En même temps, quand ça disparaît, il y a l'expérience que ça a toujours été comme ça. Et que la conception d'un souffrant ou la conception de quelqu'un qui est heureux, ça a été toujours une erreur. Ça n'a jamais existé. Donc on se dit, mais si ça disparaît, mais c'est la fin des problèmes, quoi. Mais on ne se le dit pas. On se dit, mais c'est bien sûr. Mais il faut aller progressivement dans l'acton. Il faut s'habituer. C'est vraiment un déconditionnement du fonctionnement ordinaire de l'esprit, quoi. Alors, pour favoriser ce déconditionnement, bien sûr qu'il y a l'action avec les trois éléments, hein, compassion, renoncement, samsara et dévotion. Mais surtout au début, il faut vraiment passer du temps sur la deuxième noble vérité, la cause de tout ça, quoi. Être sûr de ça. Vraiment observer ça. Parce que quand on est sûr de ça, alors après on a envie... Mais d'appliquer, tant pis si j'ai encore un peu peur ou des craintes de me dissoudre, je ne sais pas quoi. Mais si c'est ça la fin de la souffrance, mais... Ce qui est clair dans ce genre de texte, c'est que le chemin est vraiment bien tracé, quoi. Mais vraiment bien tracé. C'est-à-dire que maintenant, quand on connaît bien ce chemin... Eh bien, on peut évaluer si toutes les pratiques que l'on fait, elles ont l'objectif de déraciner cette dualité. Si oui, alors on est complètement dans la pratique du dharma. Non, au contraire, elles affirment encore la dualité. Même si on est en apparence un parfait pratiquant du dharma, on ne pratique pas le dharma. Parce que la pratique du dharma, c'est de déraciner ça, quoi. Il n'y a pas d'autre objectif à cette voie. Oui.
J'ai pensé une chose quand on parlait de dualité. Il a été constaté que des animaux, des prédateurs, arrivaient à élever ce qui aurait dû être leur casse-croûte. C'est-à-dire un lion, une lionne aurait élevé une gazelle ou un truc comme ça.
Ouais.
Donc, ils arrivent bien à passer outre, eux, ce phénomène-là.
Peut-être que dans certains cas, on dit hein, qu'il y a des bodhisattvas dans toutes les sphères d'existence. Alors, il doit bien y en avoir. Et comment ? On peut trouver hein, plusieurs cas comme ça, ou d'animaux qui, au lieu de se ruer sur la faiblesse d'un animal, d'un petit notamment, à élever par exemple ce petit. Ouais.
Ça, ça me fait penser à ça justement. Ouais. Donc c'est qu'une vue de l'esprit de toujours aller dans un seul sens.
Exactement. Ouais. Ouais, même les animaux, apparemment, certains en tout cas, peuvent y arriver, quoi. Mm-hmm. Peuvent avoir une autre vue de l'esprit, quoi. Et qui voulait dire. Ouais.
Mais c'est plus disons, qui quelque chose où j'arrive pas à m'y retrouver, pourtant j'ai l'impression que je suis pas tout à fait dans le faux, c'est-à-dire que moi, pour pouvoir voir les choses juste ou comme ça, c'est plutôt de m'apercevoir à un moment donné que la chose, elle est, mais elle n'est pas, justement, c'est ça mon problème, mais c'est qu'elle est, c'est-à-dire que c'est pas ni bien ni mal. Que quelqu'un soit malade aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire c'est mal. Mais si ça l'empêche de partir à la guerre, c'est bien. Je veux dire, chaque chose, on ne sait pas à l'avance si c'est bien, si c'est mal.
Ouais.
Et on peut le poser comme ça, simplement en disant c'est.
Oui.
Mais maintenant, oui. Si je dis c'est, si je pose la question de l'acton, ben maintenant c'est pas. Parce qu'il y a une cause. Et... Donc moi, j'ai un problème avec ça. Mais d'un autre côté, ben, en le prenant simplement en disant ben, c'est, ben, j'ai mal, mais c'est. Donc c'est ni bien ni mal, ça fait mal, mais c'est, et puis bon, il faut faire avec, il faut ni s'y attacher ni s'en défendre, c'est, mais c'est vrai que c'est, parce que, bon.
Oui, mais on ne peut pas dire que c'est de façon absolue. C'est, mais de façon interdépendante. Voilà, et donc ça... Ça permet, en allant plus loin, ça permet de ne pas solidifier ce « c'est », quoi, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Oui.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la notion de dévotion? Est-ce que c'est une notion d'abandon? Parfois, on mélange aussi dévotion et adoration. C'est quoi ce concept?
La dévotion, pour moi, la dévotion, c'est basé sur une confiance, sur une totale confiance. Et c'est pas une confiance qui est factice. C'est une confiance qui se construit, qui se développe, qui se structure, qui se met en place à partir d'une observation, à partir du temps, voilà. La dévotion, ça serait un peu synonyme de reconnaissance. Je reconnais que cet individu, par exemple, parlant de la dévotion pour le Lama Racine, je reconnais que pour moi, cet individu est le Dharma en personne, quoi. Donc ce n'est pas de la dévotion pour cet individu. Parce qu'il est sympa, parce qu'il est jeune, parce qu'il est mignon, je sais pas quoi. C'est pas pour ça, c'est pour ce qu'il représente, c'est pour ce qu'il manifeste. Un individu, même s'il a le titre de Rinpoche par exemple, si je ne ressens pas chez lui une compassion, un amour vaste, équanime, universel, même s'il a un titre gros comme ça sur le front, pour moi ça ne veut rien dire, quoi. Donc c'est quelque chose qui s'établit à partir de mon intelligence, mon discernement, mon observation. Et dans l'attitude dévotionnelle, c'est, oui, je m'en remets à cette personne. Je ne perds pas mon libre arbitre, je ne perds pas mon discernement ou mon intelligence, mais je fais confiance et je peux me confier à cette personne parce que, eh bien, ce qu'elle me montre, mais c'est ce à quoi j'aspire. Et on parle de dévotion en termes de guru yoga, et ben guru yoga, ça veut dire union de mon esprit avec celui du maître. C'est pas rien, quoi. Mais alors ça a le sens aussi d'abandon, et parce que c'est dans le sens où on s'en remet, quoi. Les trois prosternations qu'on fait, par exemple, mais ça veut dire ça. Ça ne rend pas, on ne veut pas rendre hommage à un bonhomme, par exemple, parce que ce bonhomme va enseigner le dharma. C'est absolument pas face au bonhomme, lors d'un enseignement qu'on fait trois prosternations. C'est face au dharma. C'est le dharma que je reconnais à ce moment-là. Quand je fais trois prosternations face à un autel, mais c'est les trois joyaux, c'est-à-dire le Bouddha, mais est-ce qu'on rend hommage à une statue, même si elle est bien briquée, même si elle a une valeur, etc. Mais rien, c'est simplement un objet qui signifie quoi? Ma nature de Bouddha. Donc faire une prosternation face à une statue de Bouddha, mais c'est reconnaître ma nature de Bouddha. Et donc, pour Pourquoi je fais la prosternation? Non seulement je la reconnais, mais je m'abandonne à ma nature de Bouddha. Ça introduit le pourquoi je suis ici, quoi. Si par exemple j'assiste à un enseignement, c'est pourquoi? Mais c'est pour réaliser cette nature de Bouddha. Si je n'ai pas confiance, si je ne la reconnais pas, qu'est-ce que je viens faire? Et pour la réaliser, j'ai besoin d'une voix. Donc, je me prosterne aussi, je m'en remets aussi à la voix elle-même. Et puis j'ai besoin, eh bien, de m'en remettre aussi à la personne qui peut me montrer la voix. Parce qu'elle est la voix. Et c'est pas parce que elle a écrit 50 bouquins. Et ça, c'est le sens de la prosternation. Trois prosternations que l'on fait souvent machinalement, parce que ça fait des années qu'on les fait, si on en reprend bien le sens, mais ça a vraiment du sens, quoi. Les Zen, ils vont jusqu'à saluer le coussin. Attendez, si on ne comprend pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire, on se dit, mais ils sont là, le coussin, là où ils vont s'asseoir. Hein.
On a n'importe quelle religion ou foi spirituelle. Ouais. Et c'est pas toujours évident à comprendre parce que si on ne s'est pas approprié en quelque sorte le sens.
Absolument.
Je veux dire, dans ce cas-là, on voit de l'extérieur quelque chose qui a d'un non-sens. C'est comme ce que vous dites, c'est un support.
C'est un support, uniquement, c'est un rappel. Ouais. C'est tout le problème des signes, tout le problème des symboles. Il faut aller voir derrière ce que cela veut dire. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Et on le fait avec le corps. Et c'est pas pour rien qu'on le fait avec le corps aussi, parce qu'on agit de façon négative avec le corps. Et vous savez, c'est facile de s'en remettre mentalement. C'est déjà plus difficile avec la parole et avec le corps, c'est souvent encore plus difficile. Et vous avez beaucoup de personnes qui ne veulent pas exprimer avec leur corps cette histoire d'abandon. Il y a vraiment des personnes, par exemple, dans les grandes prosternations, mais qui n'y arrivent pas, quoi. Qui bataillent et qui mettent du temps pour se familiariser avec ce genre de pratique. Leur corps refuse, quoi.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'on le reçoit, on le ressent un peu comme une sorte de soumission. Parce que c'est ça qu'on refuse.
Oui. Alors qu'il n'y a pas de soumission.
Il fait plaisir.
Il n'y a pas de soumission.
En l'expliquant, justement, parce que je n'avais pas...
Ah, c'est vraiment une... J'avais du mal aussi. C'est vraiment une reconnaissance, quoi. C'est... Ouais. Et c'est pour ça que le sens qu'il y a derrière les signes, les symboles, et tout ça. Moi, je ne veux jamais que dans un groupe, une personne fasse les choses alors qu'elle n'en comprend pas le sens, mais qu'elle fait simplement parce que les Tibétains le font, ou parce que c'est la coutume de faire. Nous ne sommes pas là pour être des petits singes. Ce que l'on fait, si on le fait, c'est qu'on en comprend le sens, et c'est que ça a du sens à ce moment-là pour nous de le faire. C'est important, ça, je pense. Et il faut mettre les personnes nouvelles, par exemple, qui arrivent, il faut les mettre à l'aise à ce niveau-là. Et ça, le responsable du Chöling, il doit aller les voir en disant, voilà, bienvenue, c'est la première fois que vous venez, ne vous sentez pas obligé de faire ce que les autres vont faire si vous n'en comprenez pas le sens, quoi. Mettez-les bien à l'aise. Hein. Déjà qu'on est en général intimidé la première fois qu'on va dans un centre tibétain, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, etc. J'aime beaucoup Rinpoche pour ça, parce qu'il casse tout ça, il casse. Il dit ne faites pas parce que culturellement vous faites comme les Tibétains, quoi. Alors, ah oui, oh, on va changer de sujet, ça va être moins drôle. Le kit de fin de vie. Alors, je dis toujours le kit de longue vie. Non, c'est le kit de fin de vie. Vous savez, on en parlait. Pour la petite histoire, c'est Akong Rinpoche à Sami Yeling en Écosse qui a commencé à étudier, mis par écrit, des instructions qu'on pourrait laisser pour notre propre fin de vie en tant que bouddhiste. Et puis j'ai eu connaissance de ce document qui était à l'état d'ébauche. Donc on l'a développé, on l'a traduit, on l'a développé et on l'a finalisé sous forme de fiche. Donc il y a une fiche qui est la photo de la pratique de Powa, hein, l'éjection de conscience. Vous avez un sommaire et vous avez une carte d'identité bouddhiste. Alors, vous pouvez mettre votre photo au-dessus, etc. La carte d'identité, donc il y a la photo, nom, prénom, etc. Centre bouddhiste à contacter, donc les coordonnées du centre, lama ou autre personne à contacter en priorité, nom, prénom, téléphone, adresse, mail, etc. Et puis vous avez donc le sommaire qui correspond aux différentes fiches que vous avez avec des en-têtes de couleurs différentes. Vous avez donc une introduction, les instructions pour le pratiquant bouddhiste en fin de vie, c'est-à-dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, les instructions essentielles pour les proches. Alors bien sûr, après, ça c'est un, hein, vous pouvez les reformuler autrement, hein, mais toutes les instructions essentielles qu'on voudrait laisser à nos proches, vous avez le canevas. Les informations pour le personnel médical prenant soin d'une personne bouddhiste en fin de vie. Et ça, c'est très important. Et sachez que dans un hôpital, l'équipe hospitalière, ils sont ravis quand on leur dit que, eh bien, on voudrait pas ci, on voudrait plutôt ça, etc. Parce qu'au moins, ils savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé de ça pour des personnes en fin de vie, l'équipe d'infirmières m'a toujours dit, ah, ben, au moins, avec vous, c'est clair, on sait, c'est bien, au moins, voilà. Ensuite, information pour les pompes funèbres concernant la mort d'une personne bouddhiste. Comment est-ce qu'on peut toucher le corps? Est-ce qu'on peut comment nettoyer le corps? Comment est-ce qu'on embaume le corps? Est-ce que c'est souhaitable ou pas, etc. C'est très bien aussi pour les pompes funèbres. Il n'y a peut-être pas besoin non plus qu'on soit maquillé comme ci, comme ça, etc. Vous pouvez laisser des instructions à partir de ça. Et donc là, ça explique un peu pourquoi tout ça. Les pratiques de soutien pour la personne en fin de vie, pour la personne décédée et pour les personnes endeuillées. Une fiche sur préparer vos funérailles, ce que vous voulez, le déroulement du rituel que vous souhaitez, et puis un exemple de lettre de directive à l'attention des proches. Donc vous avez tout cet ensemble de fiches. En plus de ces fiches, on a fait venir du Népal ce qu'on appelle un takdrul. Un takdrul, c'est comme un petit mandala, qui est une compilation de mantras que l'on récite pour une personne décédée et entourée des cinq, vous savez, de fils de couleurs pour représenter les cinq sagesses. Et ce takdrul, donc c'est dans une pochette en plastique, ce takdrul, eh bien, on le place sur le chakra du cœur de la personne décédée au moment de la crémation. Voilà. Et donc, vous avez tout ça. Voilà, c'est vendu au prix de 15 euros. Voilà. Et c'est facile à... Je veux dire, ça tient pas beaucoup de place. Vous pouvez... c'est un kit. Et voilà. Vous pouvez le placer. Alors, il n'y en a pas beaucoup ce soir, je crois, parce que on n'a pas encore toutes les photos à mettre dedans. Donc, je crois que ce soir, il y en a que trois. Voilà. Mais dès le mois prochain, il y aura les photos. Et voilà. Oui.
Quand on a prononcé tel vœu, tel pas vœu, quand on suit des enseignements et qu'on essaye de les mettre en pratique, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire ou penser être bouddhiste?
Dans la plupart des écoles bouddhistes, à partir du moment où on place sa confiance dans les trois joyaux. C'est ça qui fait que...
Mais là, c'est officiellement, c'est-à-dire en prenant...
Non, à partir du moment au niveau de l'esprit. Et là, on se dit bouddhiste. Dans le bouddhisme tibétain, c'est ritualisé. On fait la démarche. Comme tout est ritualisé dans le bouddhisme tibétain, la prise de refuge, en fait, est ritualisée. Voilà. Là, on reçoit un nom, on reçoit un cordon de refuge, on reçoit un nom de refuge, etc. Dans le zen, par exemple, ce n'est pas ritualisé de cette façon-là. Je crois pas dans le Theravada non plus. Voilà. Mais ce qui marque un bouddhiste et un non-bouddhiste, un bouddhiste, c'est quelqu'un, eh bien, qui a cette confiance dans les trois joyaux. Bouddha, Dharma et Sangha. C'est vraiment ça. Oui?
Je voulais poser la question à propos des dons d'organes.
Oui.
J'en ai discuté longuement avec mes enfants et alors on dit, je crois que la question avait été posée au Dalai Lama aussi et je ne sais plus trop ce qu'il avait répondu, mais parce que normalement il faut pas toucher le corps ou pas tout de suite.
Il faudrait au moins ne pas le toucher pendant 4 heures.
Mais bon, un don d'organe, ça veut dire on découpe tout de suite et on disperse tout de suite.
Alors, deux choses. Étant donné que, dès que, effectivement, on utilise le corps dès que la mort est effective, est reconnue, la mort physique, quand elle est reconnue, pour nous, il y a encore le processus qu'on appelle les trois chemins qui se mettent en place. Voilà. Donc ça, la manipulation du corps à ce moment-là, ça peut perturber ce processus-là. En même temps, le Dalai Lama l'a dit souvent, le fait de donner son corps pour sauver d'autres vies, c'est une attitude de Bodhisattva. Donc même si ça vient perturber notre propre fonctionnement de l'esprit, notre propre processus de l'esprit, la bodhicitta, le vœu de Bodhisattva, est supérieur à ça. Donc peu importe si ça vient bouleverser ce fonctionnement-là. Notre motivation est vraiment supérieure. Voilà. Après, on ne peut pas dire s'il faut le faire ou ne pas le faire. À chacun d'avoir conscience de ce qu'il décide de faire. Et vous vouliez dire ?
À propos des vœux de Bodhisattva, on s'engage à quoi exactement ? C'est un rappel que je
fais. Le vœu de Bodhisattva, c'est vraiment l'engagement à être à se sentir responsable de la souffrance et de la non-souffrance de l'autre. Il y a cette il y a quelqu'un pour la journée de la compassion là dernièrement, il y avait une personne qui disait qu'elle avait été en Inde et sa vie avait été bouleversée par une phrase que quelqu'un lui avait dite je me sens responsable de la souffrance de l'autre. C'est ça l'esprit du Bodhisattva. Donc prendre le vœu de Bodhisattva, c'est affirmer cela. Et essayer de maintenir dans notre esprit eh bien, cette motivation, cette attention par rapport à l'amour et à la compassion. Ensuite, alors il y a les 46 actes incorrects d'un Bodhisattva, etc. Et il faut savoir qu'on brise nos vœux de Bodhisattva à longueur de journée. Mais un vœu de Bodhisattva, quel qu'il soit d'ailleurs, n'importe quel vœu qui est pris, il n'est pas pris parce qu'on ne va pas le briser, quoi. Parce que, irrémédiablement, un vœu va être endommagé, voire brisé. On prend un vœu, c'est pour entraîner son esprit, c'est pour donner de la force à son esprit, la puissance à son esprit. On ne prend pas un vœu parce qu'on va le respecter à 100% jusqu'à éternam. Le jour où on est parfait, on n'a besoin d'aucun vœu. On prend des vœux pour suivre un chemin. Donc forcément, les engagements que l'on prend, il y a quelquefois... Voilà. Alors ça se reprend. Et ça se reprend... Comme Calvin Petit disait, la tradition, hein, dans les vœux de Bodhisattva, ça doit se reprendre toutes les 4 heures. Parce que, bon. Mais, en tout cas, ça peut se reprendre déjà. On peut utiliser le calendrier lunaire pour les pleines lunes, le jour de pleine lune, le jour de nouvelle lune. Ça peut être un rappel dans le mois. Et à ce moment-là, on le reprend face à son hôtel. Et avec nos mots, avec notre esprit, avec notre intention. On redonne la force à notre esprit d'être vigilant. On peut faire le bilan de temps en temps, de se dire bah là, j'ai pas franchement attitude de Bodhisattva, ma façon de réagir. Je prends conscience de ça et là, je vais travailler là-dessus. Et ça renouvelle nos vœux de Bodhisattva comme ça. Et puis bien sûr qu'ils peuvent se prendre de façon rituelle aussi. Et quand le Dalai Lama ou tel Rinpoche redonne les vœux de Bodhisattva, même si on les a pris et repris, on les reprend. Ça redonne de la... Ça remet les pendules à l'heure, si vous voulez, et puis ça redonne de la force à notre esprit. Vous pouvez lire des ouvrages là-dessus. Il y a des ouvrages sur les différents types de vœux. Est-ce qu'on parle du... C'est le 11 juin? Alors, le 11 juin, donc, on médite quand même une demi-heure, et puis on fait un temps questions-réponses s'il y a des questions, et ensuite, chacun peut apporter quelque chose à grignoter, et on fait une petite soirée festive, comme tous les mois de juin. Donc, il y aura Rajesh qui sera là, donc si vous voulez lui poser des tas de questions sur l'école, etc., il sera ravi de vous répondre. Hein. Est-ce que... Alors, Marie-Vonne, tu proposes de...
Ah bah oui, mais c'est ouvert, ça, on est un peu serré quand il fait pas beau, mais à moins que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre, mais chez nous, c'est d'accord avec Henri, et puis voilà. Et puis là,
bah, c'est gentil.
La communauté de Luce est aussi invitée.
Merci, d'accord, je transmettrai. Donc, alors c'est quelle adresse?
14 rue de la Herse.
Et on se retrouve à quelle heure?
As you like it. Enfin, plutôt vers peut-être 6h30, si c'est pas trop tôt, ou quand est-ce que vous terminez le travail, après? On a un petit peu de temps devant nous. Est-ce que vous dites le 18h30 ou...
Peut-être 18h30, 19h.
19h,
c'est ça? Ouais, oui. Comment?
Pour ceux qui travaillent, c'est peut-être mieux.
Oui, peut-être 19h.
Oui,
ça va? D'accord, bah écoutez, hein, très bien. Vous venez quand même avec le coussin?
Oui.
Parce qu'on s'assiera un peu et voilà, il n'y aura peut-être pas suffisamment.
Hein? C'est même sûr. C'est même
peut-être sûr. Voilà, j'espère qu'il fera beau parce qu'il y a un bien agréable jardin. Voilà, donc 14 rue de la Herse. Tout le monde a noté.
Voilà. Je demanderai peut-être, c'est à François, la liste des... Ah oui, mais on n'a peut-être pas tous les noms des présents parce que je renvoie un petit mail pour rappeler... Oui. Est-ce que vous êtes tous sur la liste de François ou peut-être pas? Peut-être ça serait bien non, qu'on ait bon elle pèse, je pense que j'ai déjà c'est papa c'est Patrick j'ai déjà envoyé un mail l'année dernière, par là j'aurais besoin toi je l'ai Geneviève je pense que je l'ai
non c'est pas de mail mais je téléphonerai.
D'accord. Et ensemble, hein? Oui. Bon, Bernadette, je sais. Hein? Jean-Pierre, hein, derrière. Tu dois avoir ton mail, toi. Hein, que, Daniel, là, c'est...
Non, Michel.
Michel, je l'ai, hein.
Oui.
Parce que je l'ai. Bon, alors, il n'y aurait que ce soir que Patrick.
Ouais.
Mmh. Très bien.
Voilà, et puis tu me donnes quand même, François, tout le reste de la liste.
Oui,
comme ça, on informe tout le monde.
Oui,
voilà.
Qu'il n'y ait personne qui vienne ici.
Bah oui, 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 oui. Ça est...
ouais.
Oui. Peut-être que nous, on peut envoyer un mail aussi par Bodhisharya ou au groupe. Je ne sais pas si tout le monde... Oui, faites-le
pour
le tuning, sinon ça va arriver à tout le monde. Les Meudonnais, ils vont savoir, ils vont rappliquer 14 rue de la Herse. On va être 300.
Un peu difficile.
Sur Facebook, comme ça, il y a 10 000.
Oui, voilà. Aussi. Bon, bah, en tout cas, merci de nous réinviter cette année. C'est bien agréable. Et puis, voilà, ça nous permet de voir Henri aussi.
Ah, il est toujours content.
Marie-Paul, est-ce que tu
tu renouvelles l'idée de promenade en bas.
Alors, ben, écoutez, ça dépend de vous, parce que eux sont tout à fait disposés à réemmener qui vous voulez. J'ai déjà des propositions pour faire une balade en bas.
Oh, ben, ça plaira à Radieux.
Ah, ben oui. Bon, ben, d'accord. Ceux qui l'ont fait, vous êtes quand même d'accord pour recommencer?
Oui, moi j'accompagnerai Radjesh.
Par contre, alors, ça va peut-être faire un peu tard. Enfin, je crois que faut pas le mettre trop tôt non plus, hein, parce que l'année dernière, il y en a qui ne pouvaient pas. On avait presque d'une heure. On dit 7 heures quand même,
oui,
sauf si ils disent qu'après 6h30, c'est plus difficile, parce qu'il faut au moins 2 barques.
Hein. Oui, oui.
On fait une à 6h30, une à 7h peut-être.
Par exemple, à ce moment-là. Mmh. Voilà.
Mais de toute façon, je vous contacte et vous me donnez un peu plus de détails. Je vous demanderai si vous apportez du sucre, du salé, enfin des bricoles pas pratiques. Hein. D'accord.
D'accord, bah super. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rien. Il y a la fête du Bouddha le 1er et le 2 juin à Strasbourg. Je sais pas si c'est peut-être un peu loin d'ici, j'en sais rien. Mais sachez que cette année, le dimanche, à partir de 16h, à 16h pile, et on fait une marche méditative, donc très lente, depuis le pavillon Joséphine du parc de l'Orangerie, jusqu'au Conseil de l'Europe, où il y a une représentante du Conseil de l'Europe qui nous reçoit officiellement. On avait prévu d'offrir au Conseil de l'Europe une pousse de l'arbre de la Bodhi. Ils ont refusé parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des plantes, donc ils ont peur que ça crève, donc ils ne voudraient pas ça. Donc on a modifié l'offrande, c'est une feuille de l'arbre de la Bodhi qu'on a recouvert d'un peu d'or et qui est encadré, qu'on remettra au Conseil de l'Europe. Voilà. Donc, si vous voulez participer ce week-end-là, venir à Strasbourg. C'est dans le parc de l'Orangerie. Au pavillon Joséphine. Le samedi matin jusqu'au dimanche après-midi, en fin d'après-midi. Et moi, je fais une conférence à 15h le dimanche. Il y a Olivier Reigen, le moine zen, qui fait une conférence le samedi après-midi. On a tous les 5 centres. On a un stand. Donc, si vous voulez venir aussi pendant 10 minutes, un quart d'heure, tenir le stand, c'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Il y a des milliers de personnes qui passent tout le week-end et qui posent vraiment beaucoup de questions. Sachez qu'à midi aussi, il y a en vente, alors que tout est gratuit, hein, l'entrée et tout, mais il y a en vente par les Vietnamiens, sandwich vietnamien et nem végétarien, pour ceux qui sont là au moment de midi. Voilà.
Le programme, on peut le trouver quelque part?
Alors, sans doute sur le mail de la CBA, la communauté bouddhiste d'Alsace. Je ne sais même pas l'adresse du mail. Et chaque année, c'est en fait la mairie de Strasbourg qui met à notre disposition gratuitement le pavillon Joséphine et le parc de l'Orangerie. Le pavillon Joséphine a entièrement été refait pendant 8 mois, cet hiver. Donc il y a maintenant même un ascenseur pour les personnes qui le nécessitent. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Bonsoir.
Jowa chikyong malupa dei salag pa shung.
Merci, j'ai oublié de dire que vous allez recevoir très bientôt la convocation pour l'Assemblée Générale, donc si vous ne pouvez pas venir, merci de renvoyer le pouvoir parce qu'il y a toujours ce quorum. Il y a joint à ce courrier le calendrier jusqu'à la fin de l'année, donc à partir de septembre. Ensuite, vous savez qu'à la fin de l'année, je m'en vais 2 mois en retraite. Hein, vous ne saviez pas? Le Karmapa a invité certains lamas qui vivent en Europe et j'étais dans le lot. Donc Rinpoche est invité aussi. Ça va être du sérieux parce que c'est dirigé par le Karmapa pendant 2 mois à Bodh Gaya. Donc j'ai pas intérêt à m'endormir pendant les sessions. Donc après, la question s'est posée par rapport au Chuling, puisque la retraite commence du 19 novembre au 15 janvier. Et en fait, sans qu'on m'en parle vraiment, les résidents de l'US se sont réunis et ils ont dit, il n'y a pas parce que le lama va en retraite, que les Chuling, eh bien, il n'y a rien qui se passe dans les Chuling. Donc, ils ont décidé par eux-mêmes qu'un d'entre eux viendra aux dates des Chuling, pas pour un enseignement, mais pour 1 heure de méditation, et puis question-réponse, mais pour qu'il se passe quand même quelque chose dans les Chuling. Voilà.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Je ne l'ai pas là. Regardez sur le programme, sur le net. Et je ne sais plus quand c'est.
Oui, pas grave, la main.
C'est plus là. J'ai complètement oublié ça. C'est, je crois que c'est le 16 juin, le dimanche. Ou samedi, le week-end du 15-16 juin, quelque chose comme ça.
Oui, c'est
dans
la mi-juin.
Oui, c'est à la mi-juin. Il y a le samedi, le guru yoga, et le dimanche, c'est le tsot le matin, et l'assemblée générale l'après-midi.
Et la fête, les offrandes, la fête des offrandes.
C'est le dimanche matin.
De ce week-end-là.
Et l'après-midi, l'assemblée générale, voilà. Pour éviter les transports. Les...
Et puis